BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
Bienvenue à tous. Jusqu'à 18h, on va vivre ensemble tous les moments clés de cette séance en Europe, aux États-Unis. Ne pas rater le secteur bancaire aujourd'hui. Depuis le début de la semaine, il y a une véritable bataille d'analystes sur le potentiel des différentes banques en Europe. On va nous aussi mesurer leur potentiel avec nos experts. H&M aussi qui s'envole littéralement aujourd'hui. La marque suédoise qui nous annonce une marge brute largement au-delà des attentes. Ce sera le joyau du jour, en tout cas la valeur dont on parlera en fil rouge tout au long de l'après-midi, ce titre H&M. Et puis dans quelques minutes, la bourse cash. David Kruk a quelque chose à vous dire concernant les marchés. Suracheter le marché ou pas? Il nous dira sans filtre, il nous dira sans filet son opinion. Ce sera à partir de 15h40, la bourse cash chaque après-midi. Et d'abord, Wall Street qui a ouvert il y a maintenant une heure. USA Today, nos experts sont en place. Le cœur des marchés américains avec John Plassard. Bonjour John.
Depuis vos bureaux,
Mirabeau, tous les jours avec nous, John. Aude Kersulek aussi est avec nous. Bonjour Aude, ravi aussi de vous retrouver depuis la salle de contrôle du CAC, la tour Euronext. Comment ça se passe cette séance aux États-Unis aujourd'hui, Aude?
Ben, on essaie de surprendre aujourd'hui, après quand même trois séances de baisse à Wall Street où on n'y arrive pas. C'était le cas donc encore hier. Alors même si c'est des petites baisses, c'est vrai qu'on manque quand même clairement de catalyseurs hein, depuis quelques jours. Aujourd'hui, c'est encore plus clair parce qu'on n'a pas du tout de publication macro au programme. Donc on peut s'attendre à quelque chose d'assez plat. En attendant, on a quand même le Dow Jones et le S&P qui évoluent pour le moment à la hausse. Plus 0,27% pour le S&P à 5217 points. Le Dow Jones prend 0,6%, 39 520 points. Seul le Nasdaq fait du surplace. On est à moins 0,08%. On a Nvidia qui recule de 2,7%. Tesla aussi, après une belle séance hier, qui perd 1,5%. Et puis à noter, on a une détente des taux obligataires de quelques points de base. On est à 4,22% pour le 10 ans américain. Et l'euro dollar, lui, est à 1 euro de 0,818.
Nouvelle petite hausse pour le marché américain. Et John, mine de rien, le S&P 500 est en train de signer son cinquième mois de hausse consécutif.
Oui, c'est assez incroyable. Et puis, évidemment, la première question qu'on se pose, c'est de savoir si ça peut continuer. Eh bien, tenez-vous bien, Guillaume, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a eu 28 épisodes de la sorte avec 5 mois consécutifs de hausse ou plus. Et tenez-vous bien, dans 26 fois sur 28, c'est-à-dire dans 93% des cas, eh bien, 12 mois après, le marché était en hausse en moyenne de 12,5%. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on termine le mois, ce qui va être le cas en hausse, eh bien, vous avez 93% de chances que votre portefeuille, eh bien, soit en hausse en moyenne de 12,5% dans exactement un an. Évidemment, chaque fois, chaque épisode est différent, mais les statistiques semblent donner raison à ce marché qui n'arrête pas de monter avec un momentum positif.
Effectivement, alors tout va dépendre des perspectives macroéconomiques. Là-dessus, les investisseurs sont en train, Aude, d'ajuster leurs prévisions pour l'économie américaine.
Oui, et là, c'est la Deutsche Bank qui a publié un sondage. Un investisseur sur deux qui s'attend maintenant à un no landing. On a beaucoup parlé du soft landing ces derniers mois. Maintenant, c'est le no landing, John. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un statu quo? C'est un combo inflation-croissance?
On va en parler, mais il faut rappeler, Aude, qu'il y a une année exactement, tout le monde pariait sur une récession des États-Unis, hein, avec l'inflation persistante, avec des taux d'intérêt qui étaient élevés. Et évidemment, on a vu que le consommateur américain consommait et que les entreprises eh bien, publiaient des très bonnes statistiques économiques. Eh bien, tenez-vous bien, le no-landing, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une inflation légèrement au-dessus de l'objectif de 2% de la Réserve fédérale américaine, et une croissance robuste. Et vous l'avez dit, aujourd'hui, on a 45% des investisseurs qui parient sur ce fameux no landing et le soft landing, donc c'est-à-dire une inflation qui s'estompe et une croissance qui baisse, qui était à l'ordre du jour il y a 2 ou 3 mois de cela. Eh bien, on a plus que 38% des personnes qui parient sur un soft landing et 17% sur un hard landing. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? C'est que on ne voit pas aux États-Unis, en tout cas, si on en croit ce sondage, on ne voit pas la croissance baisser et l'inflation baisser non plus, mais on ne voit évidemment pas de récession. Donc, c'est assez intéressant de regarder ça. Pourquoi? Parce que en cas de hard landing, de no landing, il faut évidemment adapter son portefeuille qui se comporte différemment que durant un soft landing ou évidemment un hard landing.
Effectivement, et donc les investisseurs qui désormais majoritairement ne voient plus de no landing pour l'économie américaine. Wall Street est en hausse, on le disait, le S&P 500 gagne en ce moment 0,3%. Et effectivement, voici venu le moment de notre rendez-vous consacré, vous avez entendu l'hymne américain, à la présidentielle américaine. C'est reparti, deuxième chance. On est à 225 jours effectivement de cette présidentielle. Et John, les sondages se multiplient, les sondages s'enchaînent, mais il se trouve qu'on a un sondage choc là qui a été publié ce matin même. Les Afro-Américains aux États-Unis ne votent plus Joe Biden. Est-ce un tournant là qui se profile pour le mois de novembre ?
Ben oui, potentiellement, et lorsqu'on regarde l'électorat des Afro-Américains qui avait quand même voté, il faut le rappeler, à 80% pour Joe Biden il y a 4 ans, eh bien ils ne sont plus très enthousiastes à l'idée de voter en 2024. Tenez-vous bien, on a seulement 59% des électeurs Afro-Américains qui sont presque certains de voter cet automne, et 12% d'entre eux voteront probablement. Par ailleurs, on a 40%, environ 40% des électeurs afro-américains qui ne sont pas certains de voter aux élections de 2024. C'est très important. Ça ne veut pas dire qu'ils vont voter pour Donald Trump, mais ça veut dire tout simplement qu'ils ne vont pas voter. Et rappelez-vous d'une chose, Guillaume, c'est qu'on avait vu aussi un sondage qui était très important par rapport aux personnes d'Amérique latine qui avaient immigré aux États-Unis, qui étaient dans la possibilité, qui avaient la possibilité de voter, eh bien, de plus en plus votaient pour Donald Trump. Donc, on voit ici qu'une certaine minorité, si on peut dire ça, n'est plus prêt à voter pour Joe Biden, vont s'abstenir ou certains vont voter pour Donald Trump. Donc, potentiellement, ça pourrait donner un coup en avance pour le milliardaire américain.
Effectivement, ce sondage choc a été publié tout à l'heure, USA Today, chaque après-midi. Oui, on est encore à plusieurs mois de l'élection présidentielle américaine, mais on vous promet ce rendez-vous quotidien depuis le début de l'année, depuis début janvier, consacré à cette présidentielle et cette campagne que vous nous faites vivre, John, au cœur de USA Today. John est là, depuis les bureaux de Mirabeau, et vous l'apercevez aussi dans la gauche du mur géant de BFM Bourse, Aude Kersulec, la tour Euronext. Aude, parmi les valeurs à ne pas rater aujourd'hui sur le marché américain, une valeur en hausse de 4%, on est dans le secteur de la santé.
Oui, avec un record historique même touché pour Merck à plus de $130. Ça, c'est parce que la FDA a approuvé un traitement de Merck. C'est le Winrevair. Ça traite l'hypertension artérielle pulmonaire et c'est potentiellement mortel. Donc, c'est forcément une très bonne nouvelle pour le titre Merck, John.
Ce qu'il faut savoir, c'est une pathologie qui touche au moins 40 000 Américains et évidemment beaucoup plus dans le reste du monde. C'est très important. On estime même que ce médicament pourrait devenir un succès commercial énorme. Il est très important de le noter parce que Merck, comme d'autres sociétés pharmaceutiques, eh bien, se retrouve de plus en plus face à l'arrivée de médicaments avec des concurrents génériques. Et donc, ce nouveau médicament va être certainement plébiscité. Il faut simplement rappeler une chose, c'est que ce médicament est donné par injection. C'est des injections qui coûtent $14 000 la dose et qui devraient être effectuées tous les 3 semaines. Donc, le traitement pour une personne nécessite un peu moins d'un quart de million de dollars par année. Donc, on imagine que ou vous êtes remboursé ou vous êtes riche pour avoir ce type de médicament. Donc, faire très attention à ce niveau-là parce que le prix est toujours extrêmement élevé, Aude.
Oui, ce titre Merck, donc, qui progresse de 4% aujourd'hui sur un nouveau plus haut. John, un dernier mot sur une autre valeur qui, elle, au contraire, trinque, plonge, moins 14%, le titre GameStop.
Oui, GameStop, vous vous souvenez, on en avait parlé, Guillaume, en 2021, c'était le pionnier de ce qu'on appelait les meme stocks. Le cours de l'action avait été multiplié par 100, tenez-vous bien, par la communauté Reddit. On appelait ça la communauté Reddit à l'époque. Eh bien, tenez-vous bien, les résultats, le chiffre d'affaires vient d'être publié et on voit un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre qui est largement en dessous de celui dégagé à la même période il y a un an. Et ce qui est assez inquiétant dans la publication des résultats, c'est que le distributeur de jeux vidéo a annoncé avoir supprimé des emplois sans en préciser le nombre afin de maîtriser les coûts. Donc, on a l'impression ici que les plans pour la suite ne sont pas vraiment très bien maîtrisés par l'entreprise.
Moins 14%, c'est sanctionné largement en bourse. Merci John. USA Today, depuis vos bureaux de Mirabeau, à demain pour de nouvelles aventures. Aude est avec nous, nous accompagne tout au long de l'après-midi, puis la tour Euronext. À tout de suite, Aude. Vous cassez l'antenne, vous piratez l'antenne. l'antenne, bien sûr, dès que nécessaire, aux priorités au direct et aux variations de séance. Qui se passe bien? Cette séance est positive pour Wall Street, mais aussi pour l'Europe. Le CAC 40 gagne 0,5%, 8227 points. Orange en tête, plus 2,4%. Schneider Electric, lanterne rouge, moins 3%. À 15h41, voici venu le moment de la bourse cash, mesdames, messieurs. David Kruk, avec nous, la financière de l'échiquier. Bonjour David.
Bonjour Guillaume.
Ce matin, David, en vous levant, en vous réveillant, vous avez décidé de mettre les points sur les i. C'était ce matin au réveil et vous voici sur BFM Business en situation. Vous êtes certain vouloir mettre les points sur les i et de vous jeter à l'eau cet après-midi?
Certain.
Pour vous, David, et c'est le message que vous venez délivrer aux investisseurs, pour vous, les marchés ne sont pas encore en zone de surachat. L'idée que les investisseurs seraient en surachat d'actions est fausse. Tel est votre message à ceux qui nous suivent. Vous l'assumez?
Je l'assume.
Alors que les marchés sont au plus haut, le CAC 40, là, cet après-midi, est à 8226 points d'ailleurs. L'idée que les investisseurs seraient en zone de surachat est fausse. Voici le message que vous délivrez au marché. Pourquoi venir le dire aujourd'hui et le dire aussi clairement, David?
Parce que tout le monde a l'impression d'avoir loupé la hausse du marché. Tout le monde a le sentiment de ne pas être assez investi sur le marché. Le marché est monté avec beaucoup de gens investis. Il y a beaucoup de frustration dans ce marché. Et je viens rassurer nos auditeurs, Guillaume. Finalement, j'ai vu une note d'UBS qui m'a passionné en disant que les investisseurs sont tous longs. Eh bien, c'est faux, dit UBS. Ils nous disent qu'en fait, les particuliers américains n'ont commencé à acheter le marché qu'en février dernier. Et que les 16 mois précédents, ils n'ont fait que vendre. Donc en fait, l'action d'achat n'est que depuis un mois et elle est relativement récente. Donc ce qui peut prouver qu'on va avoir une continuité dans ces achats. La deuxième chose qu'ils nous disent, c'est que le levier des fonds momentum qu'on connaît maintenant bien, les CTA, les fonds RiskCap, les fonds risque contrôle qui sont sur la volatilité, ont encore un potentiel d'ajouter du levier sur leurs fonds d'environ 400 à 550 milliards de dollars. Donc, si on ajoute le fait que la collecte equity est de 91 milliards de dollars depuis le début de l'année, si on ajoute que dans les fonds monétaires américains, il y a 8 trillions qui ne demandent qu'à s'investir en actions si les taux venaient à baisser, je ne vous parle pas des dividendes, je ne vous parle même pas du record des rachats d'actions qu'il y a dans le marché en 2023 et en 2024, puisqu'on va atteindre 1 trillion en 2024 de rachats d'actions. Je pourrais en parler deux heures, mais on n'aura pas le temps. Donc j'essaie de rassurer nos investisseurs sur ces idées fausses qui pensent que finalement tout le monde a déjà acheté le marché, tout le monde est très très long de ce marché. Et bien effectivement, il y a encore un potentiel, il y a énormément de potentiel, et peut-être que finalement ça ne vient que de démarrer.
Est-ce qu'on peut même se dire en vous écoutant que finalement le marché par défaut ne pourra que monter quels que soient les catalyseurs? Est-ce que le marché peut se passer de catalyseurs puissants pour continuer de progresser, David?
C'est pas, en tout cas on a du mal à voir ce qui pourrait le faire baisser, mais même quand on regarde les IPO, tout ce qui est des mises sur le marché, on s'aperçoit que les performances des IPO sont assez incroyables. Tout le monde cherche à trouver des décotes, tout le monde cherche à trouver à quel niveau, tout le monde cherche la baisse des marchés pour investir, et moi le premier, et Dieu sait que ça fait déjà un certain temps que j'attends une baisse qui ne veut pas arriver, puisqu'on a eu la chance de trouver le bas de marché en octobre, mais en janvier-février, après une hausse de 20%, on s'est tous dit qu'il fallait que ça consolide. Et j'ai souvent des conversations après vos émissions avec certaines personnes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le buy the dip, le fameux, il est devenu introuvable. Donc ces IPO, elles font trois fois la performance des IPO de l'année dernière. On est à plus 7,6 sur les IPO américaines en moyenne depuis le début du mois, contre 2,5 en règle générale. Ce qui veut dire que tout le monde attend ces IPO. Quand on regarde Reddit, qui a pris plus de 90%, Galderma qui a bien marché, ou quand on voit même les ABB, ce qu'on appelle les reclassements de titres dans le marché, il y a des reclassements qui se font sans décote. Je l'ai vu sur le London Stock Exchange, le LSE. Donc évidemment, tout le monde cherche à acheter avec une décote, et aujourd'hui, c'est assez compliqué. Donc c'est ça que j'ai été venu dire, Guillaume. C'est que finalement, le potentiel est encore là d'achat sur le marché, et qu'on a du mal à trouver ce qui pourrait faire baisser.
15h45, Aude nous appelle, Aude Kersulec depuis la Tour Euronext. Effectivement, la séance de l'intérieur et en direct. Aude, on est sur le CAC 40 encore en hausse. On a effectivement, comme David nous le disait, par défaut l'impression que le marché veut continuer de monter. Et on n'est plus, Aude, à l'instant qu'à 3 points et demi, 3 petits points et demi du nouveau plus haut absolu, du record absolu du CAC.
Alors, en fait, on est même passé à 8230 points il y a quelques minutes. Là, on est à 8200 voix, on est un petit peu redescendu. 8230, c'est un point de plus que le record qu'on avait précédemment. Donc, on améliore d'un point ce plus haut historique. On est un petit peu redescendu. Bon, c'est un peu... Il se passe pas grand-chose sur les marchés, mais du coup, comme on est au plus haut, il se passe quand même des choses. C'est la même chose, d'ailleurs, hein, du côté de Francfort. Le DAX est lui aussi sur ses plus hauts historiques. Il avait franchi déjà hier des records en séance en clôture. C'est encore le cas aujourd'hui, un nouveau record en séance au-dessus de 18 500 points pour le DAX à Francfort. Bah, finalement, seul Londres ne fait pas grand-chose, est à l'arrêt. Donc les indices sont quand même dispersés hein, en Europe.
Oui, mais nouveau plus haut historique. C'est une information il y a quelques instants. Nouveau record absolu du CAC 40, mesdames, messieurs. 8230 points sur notre indice. Le marché américain aussi progresse. Plus 0,3 sur le S&P, plus 0,1 pour le Nasdaq. David, on va en plus arriver au mois d'avril qui, traditionnellement, en bourse, c'est un bon mois, un mois positif. Je voyais, c'est le troisième meilleur mois boursier chaque année ou en moyenne depuis une vingtaine d'années aux États-Unis.
C'est exactement, c'est entre un 7 et un 9 si vous prenez 10 ans ou 20 ans, c'est vrai. Et en plus, ce qu'il y a de très intéressant en ce moment, c'est qu'on a quand même aussi un élargissement des drivers, Guillaume. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de concentration ensemble, c'était un vrai problème des marchés qui aurait pu nous amener plus bas. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, ben, il y a moins de concentration. J'ai regardé d'ailleurs l'Eurostock surperforme le Nasdaq sur un mois. C'est intéressant quand même, on voit le marché européen qui surperforme la tech. Et je regardais aussi dans les secteurs, le secteur des com services et de la tech n'arrive que depuis début février qu'en 5e et 6e position des meilleures performances sectorielles du marché. C'est quand même extrêmement intéressant. C'était nos drivers d'avant, c'était les Mag 7. La question, c'est est-ce que les 493 autres valeurs vont pas commencer à prendre le relais de ces 7 valeurs? Ça, c'est Merrill Lynch qui m'en parlait ce matin. Et Goldman ajoutait en disant, si c'est ce cas de figure-là, eux qui ont 5200 points comme objectif de cours sur le S&P, ce qui est les niveaux actuels, eux disent que si vraiment les 493 autres, si l'équipondéré commence à prendre le relais de l'indice normal, on pourrait monter à 5800 avec une progression de 11%.
Oui, si la tech ne repart pas à la baisse. Alors là-dessus, il y a quand même un truc qui nous alerte. Les ventes d'actions tech de la part des insiders, ces ventes sont à un plus haut de 3 ans. Est-ce que là, il n'y a pas un signal un peu plus inquiétant malgré tout pour la suite? Peut-être une consolidation à venir de la tech?
Je pense qu'on ne peut pas leur reprocher. Après, vous parliez d'avril et vous avez raison. Avril, c'est le début. On a l'impression qu'on est encore dans les résultats. On recommence les résultats. Puisque mi-avril, les banquières américaines vont commencer à nouveau à montrer leurs résultats. Donc, je pense que le juge de paix, ce sera vraiment les résultats des entreprises. Mais si les 7 magnifiques sortent des résultats qui sont convaincants, et que les 493 autres qui sont quand même très décotés par rapport à celles-là continuent leur progression qu'on commence à voir, et on espère sur les small et mid d'ailleurs, et ben à ce moment-là, on pourra avoir un nouveau palier à la hausse sur les marchés.
Vous êtes sacrément optimiste hein, là sur le potentiel des marchés. Non mais franchement, vous venez réveiller les investisseurs parce que les volumes sont assez faibles, la volatilité aussi est très très faible sur les marchés. Les marchés ont beau progresser, on a le sentiment que les investisseurs dorment debout. Quoi. Il y a une forme de léthargie dans le marché en ce moment. Vous venez les réveiller, les secouer en leur disant la hausse n'est vraiment pas finie, il y a beaucoup d'astres là qui s'alignent pour que le trend haussier se poursuive.
Guillaume, je suis votre filtre des marchés. Moi, je ne fais que répéter ce que les gens brillants me disent. Mais en l'occurrence, c'est ça. La seule chose que je pourrais ajouter, c'est que peut-être justement les small et mid, parce qu'on parle du marché dans sa globalité ensemble, les small et mid, par contre, là, il y a un vrai vecteur d'intérêt. Et nous, on commence à le voir. Et je vais vous dire quelque chose que j'espère ne sortira pas d'ici. C'est qu'on commence à avoir des vrais intérêts sur l'industrie small et mid. Et on voit des vrais acheteurs qui commencent à arriver au sein de la gestion et dans le marché. Dans sa globalité.
C'est-à-dire comment ça se manifeste ça?
On voit des gens qui investissent dans nos fonds sur les small et mid de façon assez nette, et je pense que s'ils le font chez nous, ils le font bien sûr ailleurs.
Alors, tout n'est pas rose, loin de là. D'abord, on n'est pas à l'abri d'une correction, effectivement, malgré tout, parce qu'on progresse en ligne droite hein, sur les marchés. Et puis, on a quand même certains pays en souffrance. Bien sûr, l'économie américaine éblouit par son rythme de croissance, sa solidité, mais ici en Europe, c'est moins brillant, et notamment pour l'Allemagne. Les principaux instituts économiques allemands ont tout à l'heure abaissé leur prévision de croissance pour l'Allemagne, mais alors pas qu'à moitié. Hein. Ils passent directement d'une prévision de croissance d'1,3% cette année à seulement plus 0,1%. C'est assez spectaculaire. Est-ce que ça, c'est impossible? Signe noir, allez.
Bon, faut dire que ces agences arrivent toujours en dernier. C'est un peu comme les agences de notation sur les dettes, ils arrivent un peu en dernier. Il faut dire que la plupart des brokers étaient déjà à ce niveau-là. Je parlais encore une fois avec Meryl ce matin qui me racontait qu'ils avaient moins 0,2 sur la M1 cette année, donc beaucoup plus loin que ce que sont là où est l'agence de notation et sa dernière performance. Donc il y a beaucoup d'inertie là-dessus. Et après, bien sûr, sur l'Allemagne, il y a une vraie dépendance, mais sur l'énergie, sur la problématique chinoise, sur l'industrie, sur un budget plus restrictif. Donc il y a des raisons pour ça. Maintenant, sur 2025, on a quand même 1,4% de progression. Donc finalement, effectivement, il y a un décalage d'un an de la performance. Donc, est-ce qu'on peut en être inquiet ? Probablement pas, mais
on interroge aussi nos auditeurs et téléspectateurs chaque jour sur nos réseaux sociaux. Et sur ce point aussi, c'est une question qu'on vous pose d'ailleurs. Vous pouvez continuer de répondre, vous tous qui nous suivez, sur notre fil XBFM Bourse. Vous pouvez vous y abonner ou encore notre fil LinkedIn. Après cet abaissement des prévisions de croissance par les instituts allemands pour 2024, pour l'Allemagne, est-ce que vous pensez que la BCE va devoir baisser ses taux plus tôt que prévu ? Compte tenu des difficultés allemandes, ou au contraire, la BCE pourra attendre le mois de juin, voire au-delà, pour baisser ses taux. Alors, vous êtes assez nombreux à voter, et pour l'instant, vous êtes quand même une courte majorité à penser que ce sera au mois de juin. La première baisse de taux sera au mois de juin, et c'est pas parce que l'Allemagne est en difficulté que la BCE accélérera son calendrier de baisse de taux. Vous faites partie de cette majorité qui vote pour le mois de juin ?
Oui, je pense que ce sera pas avant juin. D'ailleurs, c'est 88% dans le marché, juste dans les intentions. Mais effectivement, il y a quand même des petites problématiques au niveau de l'inflation et des salaires. Il faudra le regarder de près. Bien sûr, on en a besoin pour avoir une croissance plus dynamique, mais juin semble certainement être un bon timing.
David Kruk, la financière de la Cité, régulièrement à nos côtés. Merci beaucoup, David, d'être venu parler cash aux investisseurs. Wall Street est en hausse. Notez la compagnie de médias de Donald Trump qui s'est introduite hier, qui a flambé hier. Ce titre continue de progresser, plus 12,5% aujourd'hui pour sa deuxième journée de cotation. Et puis demain, Trigano publiera ses résultats. Ce sera demain soir. On en parlera. On vous apportera des clés d'anticipation sur la publication de Trigano. Vous êtes assez nombreux à suivre Trigano. Ce sera à 16h10 dans Valeur Ajoutée avec les experts d'Idée Midcaps.
BFM Bourse, Culture Bourse.
Cette émission, c'est la vôtre. Julie Cohen-Horton et son experte répondent chaque jour, chaque après-midi à 15h50 à vos questions.
Tous les jours, vous nous écrivez, vous nous envoyez vos questions pour avoir un éclairage sur vos portefeuilles, des stratégies à mettre en place. Ça tombe bien parce que nous, on a des experts pour vous éclairer. Et pour ça, vous le savez désormais, vous avez deux options. Vous nous écrivez à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr ou bien au QR code qui s'affiche si vous nous regardez à la télévision.
Alors, on va parler aujourd'hui d'une thématique qui n'est pas très très à la mode. Les emballages plastiques alimentaires.
Faut bien manger. Et c'est aujourd'hui le groupe Guilin qui est l'objet de notre préoccupation et c'est Atem. Atem, il nous a écrit plusieurs fois. Il nous explique qu'il possède depuis 5 ans des actions du groupe Guilin et que celles-ci ne dépassent pas souvent les 30-31 euros. Aujourd'hui, ça tourne autour de 30 euros. Il se demande ce qu'il passe. C'est Thibaut François pour Fastea Capital qui va tout nous expliquer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Julie.
Thibaut, qu'est-ce que vous pensez de ce titre ? Est-ce qu'il stagne vraiment ?
Écoutez, par rapport, si on a une vision vraiment graphique du groupe Guilin ces dernières semaines et ces derniers mois, on s'aperçoit quand même que l'année 2023 a quand même été une grande année pour le groupe Guilin. On est quand même sur une hausse de 50% de performance sur le groupe Guilin. Par rapport à l'environnement small and mid-cap, c'est une large surperformance de groupe Guilin. Il faut dire que le groupe Guilin avait sous-performé ces dernières années, notamment par rapport à ce que vient de dire Guillaume, en se disant le groupe Guilin, c'est de l'emballage plastique. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement de l'emballage plastique. Ils ont vraiment évolué ces dernières années. C'est vraiment de l'emballage alimentaire qui peut être fabriqué de façon durable, donc avec du bois par exemple. Mais en tout cas, le plastique n'est plus prioritaire chez le groupe Guilin. Donc c'est aussi une pédagogie autour de l'activité, autour de l'entreprise qui a réalisé. Et c'est vrai que l'année 2023 a été très bonne, même si effectivement le début d'année 2024 est plutôt mou pour le groupe Guilin.
Et alors du coup, Thibaut, est-ce que vous pensez que c'est un titre qu'il faut garder durablement au portefeuille ou pas du tout ?
C'est une bonne question, Julie. Le groupe Guilin est aujourd'hui un petit peu, on va dire, comme l'ensemble du marché des petites et moyennes valeurs. Le groupe Guilin, on va dire, a de très bonnes performances opérationnelles. Sur les 10 dernières années, ils ont été une seule fois en décroissance d'activité. C'était en 2020 avec l'effet Covid. Sinon, c'est un sans faute depuis plus de 10 ans sur groupe Guilin, avec une forte croissance, une rentabilité qui est élevée, avec un endettement faible, donc une valorisation qui est extrêmement faible sur le groupe Guilin, qui est une entreprise familiale. Donc on aime beaucoup le groupe Guilin, c'est une entreprise qui est mal valorisée, mal connue finalement des investisseurs. Donc on pense qu'il y a beaucoup de potentiel sur groupe Guilin, comme il y a beaucoup de potentiel sur l'ensemble des petites et moyennes
entreprises. Vous l'aimez bien, titre groupe Guilin, effectivement, donc plutôt à l'achat pour répondre à cet auditeur qui nous a écrit, comme lui, n'hésitez pas, vous tous qui nous suivez, à nous envoyer vos questions à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr. Si ça vous dit, Thibault, vous restez avec nous pour évoquer les valeurs du jour qui se distinguent, notamment H&M. Là, H&M gagne 15,5% après avoir explosé les anticipations sur ses marges, notamment sa marge brute largement aux attentes. Faudra qu'on en parle dans un instant, Thibault, si ça vous dit. On se retrouve dans quelques instants.
Avec plaisir, Guillaume.
Allez, à tout de suite, Thibault. Et puisque Culture Bourse n'est pas encore fini, on va continuer de vous apporter des clés pédagogiques pour vous aider à appréhender au mieux les marchés. Julie et ses experts, toujours aux commandes, au poste de pilotage, Julie.
Et quand on veut tenter d'expliquer la performance du marché à action, on doit souvent prendre en compte un certain nombre de critères, de facteurs, la croissance, la taille de l'entreprise, sa qualité et puis le contexte de volatilité, pour ne citer que. Mais il y a peut-être un autre facteur qui peut être intéressant de considérer, et ce facteur, c'est le momentum. On parle alors de stratégie momentum, mais de quoi on parle? Comment ça fonctionne? À quoi ça sert? Eh bien, on va tout vous expliquer grâce à Antoine Fraisse-Soulier, responsable de l'analyse des marchés chez eToro. Bonjour Antoine, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors déjà, peut-être pour commencer, à quoi ça sert? Comment ça fonctionne, cette stratégie?
Oui, alors effectivement, c'est une stratégie momentum, c'est une stratégie qui est utilisée par des gérants, des portefeuilles depuis des décennies et qui fonctionne. Alors l'effet momentum, qu'est-ce que c'est? C'est par du postulat que les valeurs qui ont surperformé auront tendance à surperformer dans un futur proche et vice-versa, celles qui ont sous-performé et vont rester à la traîne. Donc la stratégie momentum va consister à identifier des actifs et identifier tout type d'actifs finalement qui est en tendance et qui surperforme donc dans un futur proche. Pourquoi? Parce que la temporalité est très importante, parce que empiriquement on a constaté que au-delà d'un an, ces stratégies momentum sont moins efficaces, car il y a le phénomène de retour à la moyenne des actions, et donc les stratégies momentum sont très efficaces entre 6 mois et un an.
Mais alors, quel est l'intérêt pour les investisseurs de miser sur cette stratégie, uniquement sur cette stratégie, plutôt que de prendre en compte différents facteurs?
Alors effectivement, la stratégie momentum, qui est aussi appelée trend following, c'est-à-dire suivi de tendance, puisqu'on dit souvent la trend is your friend, c'est-à-dire la tendance est ton ami. Effectivement, c'est une stratégie qui fonctionne lorsque les prix sont en tendance. Après, les gérants ne sont pas obligés de suivre uniquement ces stratégies, mais on voit que c'est quelque chose qui fonctionne lorsqu'on prend. Alors, je vais prendre l'exemple d'LVMH que tout le monde connaît, mais lorsqu'il y a des publications de résultats, on peut avoir un début de tendance. LVMH avait pris 13% lorsqu'elle a publié ses résultats au mois de janvier, et derrière ça a continué, elle a pris 30% depuis le début de l'année. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais effectivement c'est une stratégie qui fonctionne dans une durée assez faible.
Et vraiment en 4 secondes, est-ce qu'il y a un point d'attention quand on table sur cette stratégie?
Pardon, excusez-moi.
Est-ce qu'il y a des points d'attention à avoir en tête?
Écoutez, les points d'attention, c'est justement identifier la tendance et voir jusqu'à ce quand elle se retourne, car évidemment, là, on dit que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, même si sur les marchés américains, c'est un petit peu le cas actuellement. Mais effectivement, il va toujours falloir. Enfin, les prix ne montent pas éternellement. Il va y avoir des phases de respiration et puis des phases de correction.
Merci beaucoup Antoine Fraisse-Soulier pour eToro d'avoir été notre pédagogue du jour. On vous retrouve très rapidement pour un nouveau Culture Bourse.
Culture Bourse chaque après-midi aux alentours de 15h50, alors que le CAC 40 nous offre un nouveau record, 8230 points. C'était il y a quelques minutes. Nouveau plus haut historique donc pour l'indice CAC 40, porté entre autres par le titre Orange aujourd'hui, plus forte hausse. Carrefour aussi qui souffrait hier, aujourd'hui c'est un peu mieux Carrefour, plus 1,6%. Puis on reviendra aussi au-delà du CAC 40 sur ce titre H&M en progression de plus de 15%. H&M dont la marge brute dépasse largement les attentes. A tout de suite, juste après la pause sur BFM Business.